Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 4, scène de crime. Et oui, dans ce chapitre, on va surtout s'attarder à l'étape, si on veut, de la scène de crime, parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'éléments qu'on doit retenir pour comprendre la suite qui tourne autour de la fameuse scène de crime. Parce qu'on va voir que la scène de crime n'a pas été traitée tout à fait comme aujourd'hui, mais je ne vais pas révéler de punch, on va le voir au fur et à mesure. Alors, comme on le sait, Blanche Garneau était disparue depuis quelques jours, et là on se retrouve dans l'après-midi du mercredi 28 juillet. Il était environ 16h lorsque Joseph Boulanger, lui c'était un garçon de 15 ans à peu près, et il passait dans le parc Victoria à ce moment-là, lorsqu'il a voulu, il a eu le goût de se baigner. Bon, apparemment qu'il y avait plusieurs enfants qui avaient cette habitude-là de se baigner, principalement dans la rivière Saint-Charles. Et en revenant de sa baignade, il a fait remarquer à un de ses compagnons qu'il y avait une certaine partie là, du boisé ou des herbes là, qui avaient été piétinées dans le secteur où il était allé se baigner. Donc, c'était assez... assez marquant pour qu'il en parle à son ami. Donc, on peut le croire là-dessus, sur ce détail-là. Il y avait même des branches de brisées aussi, c'est ce qu'il a mentionné. Donc, ça, entre guillemets, ça a brassé. Donc, il s'était passé quelque chose dans le secteur. Et tout de suite, après avoir passé cette réflexion-là, il a remarqué la présence d'un portefeuille. Puis, sans réfléchir, il s'est empressé de le ramasser tout de suite. Le portefeuille était encore trempé, probablement à cause des marées. La rivière Saint-Charles monte et descend selon les marées. Et le portefeuille contenait deux photos qui avaient été prises sur plaque de zinc, mais les images s'étaient effacées. Sans doute, là, c'est ce qu'on pense, à cause de l'humidité trop intense. Alors, lui, ce qu'il a fait, le jeune Joseph, c'est qu'il a jeté les deux lamelles, donc les deux photos, pour emporter chez lui le fruit de sa trouvaille, donc le portefeuille. Évidemment, il ne contenait pas d'argent, ou du moins, on ne l'a pas mentionné. Et je ne veux pas révéler de punch, mais c'est quand même bon d'ouvrir des parenthèses au fur et à mesure de notre récit. Et ici, on pourrait se demander, évidemment, si c'était le portefeuille de Blanche Garneau. Et on a souligné le fait que Blanche Garneau gardait la clé du commerce dans son portefeuille. Donc ici, quand Joseph Boulanger l'a trouvé, on ne parle pas de clé, ou la clé est tombée du portefeuille peut-être pendant une altercation, on ne sait pas. Il n'y avait pas d'argent, mais ce qui attire notre curiosité, c'est qu'il y avait deux plaques de zinc, donc des photos. Et on sait que Blanche Garneau était amatrice de photos. Elle avait acheté un appareil, c'était pas une grande photographe, mais je veux dire, pour acheter un appareil en 1920, fallait quand même s'intéresser à la photo. C'est pas tout le monde qui avait un appareil à la maison. Et on sait qu'elle avait pris des clichés là, au moment qu'elle avait rencontré le jeune Griffin à Sainte-Anne de Beaupré lors d'une chorale. Est-ce que c'était ça? On le saura malheureusement jamais, parce que les photos non seulement ont été jetées, mais elles se sont effacées au cours des jours de la disparition. Mais quand même, on peut se poser la question. Le même jour, donc le 28 juillet 1920, on se retrouve le soir, cette fois-ci vers 20h30, et le jeune Joseph Boulanger est revenu au parc de l'exposition. Et cette fois-ci, il a croisé un de ses amis, Albert Latulippe, lui qui était âgé de 12 ans. Tout de suite, celui-ci a attiré son attention parce que le jeune Albert était complètement paniqué. Et il lui a tout de suite confié pourquoi. Parce qu'il venait trouver un cadavre. Et oui, c'est assez pour paniquer, disons. Mais lui, il disait qu'il avait trouvé un cadavre d'un jeune garçon dans les broussailles. Et ce cadavre-là se trouvait entre la voie ferrée du tramway et la rivière Saint-Charles. Ben, immédiatement, Boulanger était plus vieux, donc il a voulu aller voir, lui, c'était pas suffisant pour le faire retourner chez lui. Donc, il voulait, sa curiosité de le pousser à aller voir. Et justement, il a vu que cet endroit-là, ça correspondait à des herbes piétinées. C'est ce qu'il avait remarqué, vous souvenez-vous, un petit peu plus tôt dans la journée. Et exactement où il avait trouvé le porte-monnaie, d'ailleurs, quelques heures plus tôt. Bon, là, à ce moment-là, les deux jeunes garçons se sont assurés qu'il s'agissait bien d'un cadavre. Bon, là, quand ils ont compris que c'était sérieux, ben, ils ont parti à courir pour aller chercher de l'aide. Et c'est là qu'ils sont tombés sur l'un des gardiens du parc là, qui patrouillait ce soir-là et qui s'appelait Joseph Mallard. Donc, à partir de là, Joseph, le gardien Joseph Mallard, qui était âgé de 59 ans, a accepté tout de suite les ocrues. Donc, c'est déjà très bien du côté de l'attitude policière, si on veut. Donc, il les a crues tout de suite, puis il les a accompagnés. Mais en y allant, en demandant à un collègue de y aller avec eux autres, et ce collègue-là s'appelait Théophile Trudel. Et ils ont compris que ce cadavre n'était pas celui, en arrivant là, ils ont compris que le cadavre n'était pas celui d'un enfant, mais plutôt d'une femme. Autre détail intéressant, le cadavre était recouvert d'un drap blanc. Et là, il faut se fier aux témoins et vous allez comprendre rapidement pourquoi. On va en parler à la fin du chapitre. Le cadavre était recouvert d'un drap blanc de la tête jusqu'aux genoux. Alors, de sorte que les jambes en bas des genoux étaient exposées. Mallard et Trudel, à ce moment-là, ont compris qu'il fallait alerter leurs supérieurs. Hein? C'est assez évident. Ils ont compris qu'il fallait alerter leurs supérieurs, mais la question est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que vous allez voir plus tard que ça s'est pas passé tout à fait comme une scène de crime aujourd'hui, c'est-à-dire avec tout le Bataclan, les camions des experts qui débarquent, les photographes, les preneurs d'empreintes, tout ça, c'est pas du tout le cas. Et je continue avant de vous révéler tout le punch. Mais ils ont demandé, Mallard a demandé à son collègue Trudel de rester sur les lieux, ça c'est quand même bien, pour protéger, entre guillemets, la scène de crime. Donc il a dit, toi reste sur les lieux et moi... Monsieur Mallard, ben, il s'est éloigné à la recherche d'un téléphone. Il en a trouvé un dans le parc, un peu plus loin. Et il a composé le 2077, qui était le numéro de la maison funéraire Hubert Moisan, qui avait pignon sur rue au 297 rue Saint-Joseph, qui était quand même pas très loin dans le quartier. Mais alors, peut-être que vous vous posez déjà la question... on a vu, pour ceux et celles qui me suivent dans d'autres balados, dans des cas plus anciens, au lieu d'appeler la police à une certaine époque, ben, soit qu'on appelait le curé ou le coroner. Donc le curé, ça se comprend, étant donné notre passé plutôt religieux et catholique avec les clergés, ben, quand quelqu'un mourait, même dans des conditions violentes, ben, on avait tendance à appeler le curé pour X raisons. Je les nommerai pas toutes, mais une question religieuse, entre autres, bon, pour sauver l'âme du défunt, etc., etc. Ou alors, on contactait le coroner, qui on sait, bon, c'est lui qui enquête le premier sur les morts suspectes. Parce que le coroner existe depuis beaucoup plus longtemps que la police. Eh oui! Donc, c'est plus ancien, c'est plus traditionnel, c'est une vieille habitude, donc, d'appeler le coroner avant la police. Mais là, on a deux gardiens sur place. On a Mallard et Trudel. Pourquoi on n'a pas appelé les supérieurs, comme ils ont dit plus tard qu'ils ont pensé le faire? C'est étrange. On a plutôt appelé le service funéraire Hubert Moisan. Eh oui, on s'est dit, bon, d'un corps, on appelle le service funéraire. C'est logique. Mais oui. Alors, ça a pris une vingtaine de minutes, c'est ce qu'on dit. La voiture de la maison funéraire est arrivée, donc c'est immobilisé près de l'hôtel du parc Victoria. Et c'est à cet endroit-là que les attendait Mallard en compagnie d'une cinquantaine de membres d'une fanfare qui s'était donnée en spectacle au cours de la soirée. Eh oui, vous voyez déjà le topo. On a une cinquantaine de personnes. Monsieur Mallard doit sûrement se faire questionner, on peut l'imaginer. Je pense qu'il n'en a pas parlé par la suite, mais il s'est peut-être échappé. Il dit « Ah, là, ouais, je t'ai soufflé, là, on a trouvé un corps pas loin. » Puis vous imaginez déjà la rumeur qui se répand. Alors qu'un policier professionnel, entre guillemets, aurait fermé sa gueule, hein? Il aurait gardé pour lui, en policier mature et professionnel. Alors, quand M. Moisan, donc les pompes funèbres arrivent, donc c'est en compagnie d'un employé que Ulrich Moisan a suivi, bon, Mallard, qui lui se chargeait de les reconduire sur les lieux de la découverte, qui se trouvait à ce moment-là à 700 pieds plus loin. À son arrivée, on dit, en tout cas, on a écrit à quelque part, qu'à leur arrivée sur la scène de crime, sur la voie ferrée là, du parc Victoria, il y avait déjà quelques dizaines de curieux qui les suivaient. Donc, est-ce qu'on peut partir des membres de la fanfare qui voulaient en savoir plus et qui ont entendu M. Mallard en parler? C'est fort probablement ça. C'est probablement à partir de là que ça a commencé, l'effet boule de neige des curieux. Et en arrivant vis-à-vis de la scène de crime, c'est-à-dire, pour vous décrire ça, c'est ce qu'on disait à l'époque dans le dossier, c'est que vis-à-vis de la scène de crime, quand on se trouvait sur la voie ferrée du tramway, il restait encore une distance entre 25 et 30 pieds pour s'engouffrer dans les broussailles et arriver directement à la scène de crime, donc où se trouvait le cadavre de Blanche Garneau. Je dis Blanche Garneau, elle n'avait pas été identifiée, mais vous allez comprendre que hein, c'est quand même d'elle qu'on parle depuis le début. Ça, c'est clair. Donc, évidemment, le soleil étant couché depuis un bon petit bout de temps, et il faut imaginer aussi à ce moment-là que dans les broussailles, un peu à l'improviste, tout ça, sont pas super préparés, sont pas. On imagine aussi que des scènes de crime comme ça, ben, c'était la première qu'ils vivaient. C'était vraiment pas courant. Donc, ils se sont éclairés pour se rendre avec un projecteur qui appartenait à Joseph Mallard. C'est lui qui tenait le projecteur. Donc, on imagine peut-être, je n'ose pas m'avancer, mais probablement une genre de lampe à l'huile ou un projecteur animé d'une quelconque façon. Donc, à partir de là, en réalité, on se retrouve avec deux policiers, deux jeunes garçons et deux représentants des pompes funèbres. Et celui qui est le plus professionnel à ce moment-là sur la scène de crime, c'est Ulrich Moisan. C'est le représentant de la maison funéraire. Et lui, ce qu'il dira plus tard, en tout cas, il faut se fier à son témoignage, dont on n'a aucun moyen de douter. Là. C'était vraiment quelqu'un d'honnête. Lui avait évidemment pas peur des cadavres, donc il s'est penché pour retirer doucement le drap blanc qui recouvrait Blanche Garneau. Il a remarqué dans un premier temps que la femme était étendue sur le dos, son bras droit replié sur son tronc. OK? Essayez de vous imaginer tout ça parce que ça va être... tous ces détails-là vont quand même être assez importants plus tard parce que il n'y a pas de photo de scène de crime. Alors qu'il y en aurait dû y en avoir, la technologie le permettait. Et vous allez voir qu'on en a même pris des photos de la scène de crime, mais après que le cadavre a été emporté. Donc, un petit peu inutile dans ce cas-là. Mais bref, c'était 1920, bienvenue dans les années folles. Alors, dans cette main crispée, je vais arrêter de rire parce que ce bout-là, ça me touche un peu plus. Dans cette main crispée, ben, il y avait quelque chose qui a attiré l'attention de M. Moisan. Et lorsqu'il a regardé de plus près, il y a trouvé un mouchoir de couleur ivoire portant les initiales HD à l'encre noire. Et comme je le disais à l'introduction, ce mouchoir-là, je l'ai eu dans mes mains aussi, 100 ans plus tard. C'est quand même quelque chose, le fait d'avoir eu ça. Mais bref, je parle pas de mes émotions, c'est pas important, surtout pas dans une enquête comme ça. Mais pour vous dire que le mouchoir est encore conservé dans le dossier aux Archives nationales de Québec. Et là, il faut se poser des questions. En tout cas, j'imagine que ceux qui étaient là sur place s'en sont posés. Parce que là, un mouchoir HD, ça représentait quoi comme initial? C'était certainement pas les initiales de Blanche Garneau, hein? Alors, bon, si c'était pas un mouchoir qui lui appartenait à Blanche, alors à qui? Est-ce que ça pouvait être le mouchoir de l'assassin? On commençait peut-être à avoir une première piste, là. C'était peut-être quelque chose d'important, donc, à retenir. Et ce que Moisan aussi constaté, c'est que la tête de la jeune femme était inclinée du côté droit, alors que tous ses vêtements, à partir de la taille, étaient relevés jusqu'au dessus de ses seins. Ça, c'est... Bon, c'est pas le fun à imaginer, évidemment, mais c'est souvent un indice qu'on est en présence d'un viol, parce que tous les vêtements... imaginez-vous quelqu'un, là... Imaginez-vous 2-3 secondes dans la tête d'un tueur à caractère sexuel. Bon, lui, il a un scénario dans sa tête. Il est déjà programmé d'une certaine façon. Il veut aller jusqu'au bout. Il veut violer sa victime. Donc, ça se passe très vite. La victime se débat probablement. Il n'a pas le temps de la faire déshabiller. C'est pas comme dans certains films qui nous montrent, à la pointe d'un revolver, bon, je te redonne, déshabille-toi, puis après ça, je te viole, puis là, tout ça, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, quand la victime porte encore ses vêtements et qu'ils sont relevés très haut, ben, voilà, je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas des innocents, hein? Alors, c'est présence de viol généralement, et ce sera, je vous révèle un petit punch, mais ce sera effectivement confirmé à l'autopsie. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la jupe à carreaux reposait près du corps. OK? Donc, tout était sur place quand même. OK? Et avant de finir ma réflexion, je vais parler des pantalons. Les pantalons avaient été pratiquement arrachés, déchirés en 3 sections. Donc, tout indique que ça s'est passé sur place. Il n'y a pas... si on l'analyse avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, ben on dirait qu'il y a une seule scène de crime. Le corps n'a pas été déplacé. Ça s'est fait là, one shot. La seule mise en scène qui pourrait avoir été faite, c'est le fameux drap blanc pour recouvrir le cadavre. Bon, ça, on pourrait se questionner longtemps. Il y en a qui pourraient donner une réponse assez claire. Dans certains cas qu'on a vus, bon, par la suite, au fil du siècle qui a suivi, quand le corps était recouvert comme ça, ou des fois c'était juste le visage qui était recouvert, c'est parce que, habituellement, il peut toujours y avoir des exceptions, et c'est toujours délicat ce que je vais dire là, mais on pourrait croire que c'est quelqu'un qui connaissait la victime et qu'après avoir commis son crime, parce que lui, il était vraiment stimulé par un but quelconque, et après avoir commis son crime, ben, il avait honte d'avoir tué sa victime ou ça s'est pas passé comme il l'avait voulu, évidemment. Donc, il prévoyait peut-être pas la tuer, mais peut-être juste la violer. Il la désirait peut-être, bon, tout ça. Alors, ça peut vouloir dire ça, recouvrir le corps parce qu'il y a une certaine honte, alors que si c'était un tueur désorganisé, qui est trop spontané, ben le corps, il n'y aurait rien eu de modifié. Le corps aurait été resté dans tel état, sauf l'absence du drap blanc. Donc, le drap blanc vient nous emmener quand même un bon indice, comme quoi c'est pas un crime tout à fait désorganisé, et que le tueur pouvait avoir des remords et qu'il connaissait probablement sa victime. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous allez le retenir au cours des prochains chapitres, parce que ça va nous aider à démystifier peut-être un tueur potentiel, parce que dans cette affaire-là, vous allez le voir avec moi, il y a eu plusieurs suspects. Et quand même quelques-uns, il y en a eu plusieurs, il y en a qui étaient loufoques, là. Mais il y en a quand même quelques-uns qui étaient très intéressants et que ça aurait pu être eux. Mais dans ceux-là, il y en a qui ne connaissaient pas Blanche Garneau. Alors, est-ce qu'on pourrait éliminer certains suspects juste à cause du drap blanc? C'est mince. c'est très mince. Moi, sur un seul élément, je ne serais pas prêt à gager là-dessus. Et d'autant plus qu'on n'a pas les photos de la scène de crime. Parce que ça aussi, ça pourrait parler. Ça pourrait nous en dire pas mal plus. Donc, c'est toujours plus explicite, les photos. Donc, il faut faire attention, comme je le disais, je ne me souviens plus dans quel balado, mais à propos des fameuses affaires non résolues, il y en a qui vont lire une enquête de coroner d'une demi-page, puis ils savent déjà ce qui s'est passé. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Non, c'est le contraire. Quand il nous manque des éléments, quand il nous manque beaucoup d'éléments, quand on est en présence de moins de documents ou qu'il y a des trous comme ça, il faut faire attention à notre interprétation. On n'a pas tous les éléments en main. Mais, comme vous le savez, hein, les trous mystérieux, il y en a qui sont très bons pour les remplir avec toutes sortes de scénarios. Mais bon, je vais continuer pour terminer mon chapitre. Et, bon, le corps, évidemment, comme vous l'aurez probablement deviné, le corps de Blanche Garneau se trouvait dans un état de décomposition passablement avancé. On était en juillet, hein, les grosses chaleurs de juillet. Donc, voilà, c'est peut-être mieux qu'on n'ait pas les photos de la scène de crime, finalement. Ça ne devait pas être beau à voir. Ce qu'on a dit plus tard, surtout de la part de M. Moisan, c'est qu'on a essayé de préserver le corps tel quel le plus possible en le déplaçant. Donc, Moisan et son acolyte l'ont amené délicatement jusqu'à leur véhicule avant de filer à leur morgue de la rue Saint-Joseph. Peu de temps après, ben, Michel Baribeau a été contacté pour aller identifier le corps. Et évidemment, ben, il a dit « Oui, effectivement, c'est bien ma fille adoptive, Blanche Garneau. » Donc, c'était confirmé. La disparition de Blanche Garneau devenait un meurtre. À l'exception de l'affaire Marie-Blanche Dubois, qui s'est passée en 1914, on va y revenir beaucoup plus tard au cours de la série. J'en dis pas plus, mais c'était un meurtre là, qui était assez horrible aussi, d'une certaine façon comparable à celui de Blanche Garneau. Mais ça faisait à peu près 6 ans, donc il s'était rien passé dans la ville de Québec. Et tout ça pour dire qu'on avait rarement eu l'occasion de gérer un crime aussi grave. Normalement, comme je l'ai déjà dit, on avait affaire à des bagarres qui tournaient mal, donc il y avait une victime, des choses de vengeance, des homicides domestiques. Donc les victimes se connaissaient généralement, à part... dans des bagarres parfois, là, dans un bar par exemple, où les victimes se rencontraient pour la première fois. Sinon, les crimes comme celui-là étaient assez rares. Donc, on n'avait pas... on n'y avait pas de méthode d'enquête prévue pour ça. Les profileurs du FBI n'existaient pas encore. Il a fallu attendre quelques décennies, même un demi-siècle environ, avant de les voir apparaître au cours des années 70. J'imagine, je sais pas, je l'ai imaginé en tout cas parce que je l'ai écrit dans mon livre en 2017, que les policiers de l'époque ont compris rapidement qu'il y avait affaire à un cas difficile. Mais s'ils l'ont imaginé, ils l'ont pas appliqué. Ou ils savaient pas comment l'appliquer. Parce que, par exemple, si le chef, on parle du chef Émile Trudel, donc le chef de police, on en a parlé plus tôt, et l'auteur Réal Bertrand l'avait un peu, écrit en sa faveur, avec des termes élogieux, tout ça. Il était peut-être compétent jusqu'à un certain point, mais dans cette affaire-là, il n'a jamais, par exemple, ordonné qu'on protège la scène de crime, et il n'a jamais demandé non plus à ce que des détectives ou des policiers chevronnés se rendre sur les lieux pour enquêter, pour commencer l'enquête. Donc, comme chef de police, en guillemets, même pour 1920, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Écoutez, il n'y a pas eu d'enquêteurs qui sont allés sur la scène de crime pendant que le corps était encore là. Il a fallu, écoutez bien, êtes-vous bien assis? Il a fallu quelques jours pour qu'un premier enquêteur se déplace pour aller voir où s'était passé le crime. Hein? C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, on parle de quelques minutes, puis les enquêteurs sont sur place, puis c'est tout de suite le branle-bas de combat. Puis là, ben, je sais pas, ça presse pas, là. Faut croire que on pensait peut-être que ce serait un crime facile à résoudre. Donc, déjà, ça commençait pas bien pour cette enquête-là. Donc, vous aurez compris, encore une fois, ben, que les seuls témoins qui ont vu la scène de crime... Et je parle même pas de photos, il y a personne qui a pris des photos. Ben, on se retrouve avec les gardiens Mallard et Trudel. Ensuite, les deux jeunes garçons Boulanger et La Tulipe. Ainsi que Ulrich Moisan et son employé qui, par ailleurs, n'a jamais été identifié clairement, on ne sait pas son nom. Alors, on a 6 personnes, 2 enfants... 2 représentants de la maison funèbre qui, bon, sans parler mal contre eux, n'avaient pas de formation comme enquêteurs. Et on a 2 gardiens de parc qui étaient plus ou moins constables ou tout ça, assez âgés. Et alors, ça commence pas bien, vraiment pas. On dirait que... Ouais, j'oserais pas dire que c'est parce que dans le chapitre suivant, je vais le dire, mais que tous les éléments, on dirait que s'acharnaient contre Blanche Garneau. Pauvre elle. Donc, on comprend déjà que ce sont des éléments qui, sans aller vers, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de complot dans ça, là, pour dire tout le monde s'entendait pour pas se forcer pour faire l'enquête. Mais je dirais que ce sont des éléments qui pointent plutôt vers une incompétence. Là. C'est assez... Puis si vous me posez la question que la scène de crime n'a pas été protégée, que c'est normal pour 1920, parce que c'était plus l'époque aujourd'hui, je regrette. Si on remonte à plus de 20 ans auparavant, donc à la fin du 19e siècle, rappelez-vous le crime de Cordelia Vio, qui a fait tout un scandale aussi à un moment donné du côté littéraire, parce qu'il y en a qui disaient qu'elle avait été injustement condamnée, et qui, après révision du procès, Maître Clément Fortin a dit non, le procès était justifié, le verdict aussi. Alors, mais dans ce cas-là, quand on a découvert le mari de Cordelia Vio, ben la scène de crime a été protégée. Peut-être pas par des policiers professionnels, mais je pense que c'était le coroner dans ce cas-là qui a dit, là, il avait mis 2 hommes sur place, vous ne bougez pas de là, vous laissez rentrer personne, parce qu'il était question de traces de sang et tout ça, donc vous laissez rentrer personne tant que on vous le dit pas finalement, tant on vous dit pas de bouger de là. Donc si on l'a fait 20 ans auparavant, à la campagne en plus, ça regarde pas bien pour la grande ville de Québec. Et non, on n'avait pas cette compétence-là ou on n'avait pas le vouloir. J'imagine que les policiers de Québec le savaient, qu'il fallait protéger une scène de crime, mais là, je sais pas, ça s'explique pas, puis on n'a pas insisté bizarrement là-dessus par la suite pour essayer d'éclaircir ce point-là, parce que c'est vraiment pas un point, c'est vraiment pas un trophée à donner à la police de Québec, là, vraiment pas, parce qu'on le sait que ça se faisait là, à cette époque-là. Alors voilà, ça commence pas bien et on va y revenir, mais au cours des jours, avant que le premier détective se présente sur les lieux, bien évidemment, les curieux se sont multipliés. Ils ont piétiné les herbes, donc le jeune boulanger avait parlé, donc c'était quand même important, parce que ça aurait pu, par exemple, déterminer un sentier qui avait été piétiné par le ou les tueurs. Mais non, tout a été piétiné et si on a trouvé des petits indices, des objets par exemple au sol, ben là il était impossible de dire est-ce que ça appartenait à des curieux qui étaient venus par la suite ou ça appartenait à Blanche Garneau ou au tueur. Voyez-vous là la contamination de la scène de crime, à quel point ça peut être vraiment désastreux. Alors voilà, c'est vraiment dommage, mais ça partait vraiment pas bien, alors que c'est vraiment tous ces éléments-là au début qui sont les plus importants, parce que la scène de crime, elle ne pourra pas se reproduire. Ça arrive une fois et c'est fini. Alors, c'est pour ça qu'il faut redoubler de prudence. Alors, voilà. Et au chapitre suivant, nous verrons tous les détails en lien avec l'autopsie.